Qu'est-ce que je vais faire à manger ce soir? Ah, je sais. Anne va me donner des recettes simples et délicieuses.
Mettez votre tablier, sortez vos ustensiles et préparez-vous. C'est l'heure de Food Anne sur Infini Radio.
Bonsoir, bonsoir à tous. Je suis ravie de vous retrouver pour aujourd'hui. On est le 28 juin. Bonsoir Nathalie, bonsoir Théo. J'espère que vous allez bien. Ouais, cachez votre joie.
Bah super. Non, mais j'avais pas de micro. Bonsoir, ça va bien, chaudement.
Chaudement, mais c'est tout à fait agréable. Moi, je préfère ça que la pluie.
Oui.
Voilà, c'est moins pénétrant, on va dire. Bah écoutez, aujourd'hui, on a prévu des menus un petit peu estivales, vous allez voir. On va commencer, hein, puisqu'on a les tomates qui arrivent, on a des courgettes qui arrivent dans nos jardins, donc on va pouvoir profiter de tous ces légumes de nos jardins. Alors, on a choisi, donc vous le saviez déjà, mais on a choisi de préparer du gazpacho andalou. Donc, c'est un plat qui est d'Andalousie, vous verrez dans l'histoire d'où vient exactement cette recette. Donc pour ça, on a besoin de 8 tomates bien mûres, un oignon, une gousse d'ail, une tranche de pain de mie, un peu d'huile d'olive, du poivre, un petit peu de piment, hein, vraiment léger, et puis du sel. On aura besoin aussi du poivron rouge, ainsi qu'un poivron vert, un concombre, 4 oignons nouveaux, vous savez, c'est les blancs. Et puis, on aura besoin aussi de 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès, 2 œufs durs et du basilic frais. Pour les ustensiles, on aura besoin d'un mixeur, d'une fourchette, d'un saladier, d'un couteau et de 4 à 6 verrines. C'est mieux dans les verrines que dans des bols. Après, vous faites comme vous avez, c'est surtout ça. Ensuite, on vous a préparé donc avec le gazpacho, ce qui sera une entrée, bien sûr, un mi-cake aux chèvres, aux courgettes et tomates. Donc pour ça, vous aurez besoin de 50 g de farine, 50 g de maïzena, 2 cuillères à soupe de fromage blanc, 1 cuillère à soupe d'huile d'olive, un sachet de levure chimique, une courgette en petits dés, coupée en petits dés, c'est mieux de l'avoir fait avant. Du sel, du poivre, des herbes de Provence, 2 œufs, une cuillère à café de moutarde à l'ancienne, 6 tomates séchées à l'huile, donc ça j'espère que vous les avez trouvées, on les trouve en général dans les bocaux en verre. Et puis on aura besoin de 6 tranches fines de bûches de chèvre. Et 10 cubes de feta. Alors j'ai mis 10 cubes, mais c'est de la feta que vous allez couper en cubes, ou alors elle se trouve aussi pareil en bocaux, un petit peu aromatisée, donc ça c'est vous qui voyez. Nature c'est le mieux, si elles sont aromatisées par exemple aux herbes de Provence, ben vous enlèverez les herbes de Provence de la recette. Et puis pour les ustensiles, on aura besoin de 6 à 8 cassolettes rectangles, donc ça se trouve dans les magasins de style, je peux dire la marque.
Il faudrait qu'on dise plusieurs. Quelque chose qui commence par Zo et qui finit par Duo, c'est ça?
Voilà, c'est ça. Et B et Cuse. Voilà. Alors,
ça ne doit pas être le même prix, par contre.
Ah, si. Il y a vraiment tout pour la pâtisserie.
D'accord.
Et puis pour les mariages, il y a pas mal de choses. Pour la déco et tout. C'est vraiment très, très bien. On peut dire où est-ce que c'est le deuxième?
Ah bah,
sans faire de la pub,
vas-y.
Voilà, c'est à Sainte-Geneviève-des-Bois.
D'accord, ok.
Voilà, c'est juste à l'entrée, la première entrée à droite.
À la Croix-Blanche.
À la Croix-Blanche,
ok.
Voilà, donc par l'entrée principale. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup ce magasin, là, parce qu'on trouve pas mal d'idées et puis de choses. Et puis alors je trouve que ça dépend des choses, mais je trouve que parfois c'est moins cher que le premier.
D'accord.
Pour pas le répéter.
Parce qu'en grande surface on en trouve, mais en général c'est des ronds. C'est pas
non, tu peux trouver, des rectangulaires et ils ont le fond aluminium, un style argenté.
Ah ouais, d'accord.
Oui. Si, tu peux trouver, mais dans des très grandes surfaces.
Voilà. Oui, d'accord.
Maintenant, ils ont pas mal de choix. Ensuite, pour le plat, on a choisi de vous faire un hachis parmentier de confit de canard. Vous allez voir, c'est très très simple à réaliser. Pour ça, on a besoin de 2 carottes de taille moyenne, 5 petites branches de céleri, une pomme de terre, 1 kg de pommes de terre en purée. Donc on reverra la recette. 20 centilitres de lait, de la crème fraîche, ça c'est juste une cuillère à soupe, ça suffira bien. De la muscade, du poivre, du sel, 4 cuisses de canard donc bien dégraissées. Donc si vous ne l'avez pas fait, eh ben, le mieux c'est d'enlever les cuisses de la graisse parce que c'est pas très très bon comment on va les... pour qu'on puisse les faire. Et puis une salade verte, donc là dans nos jardins on en a plein en ce moment. Et puis pour les ustensiles on aura besoin d'une poêle, d'une casserole, d'un économe, d'une passoire, d'un presse-purée, d'une fourchette et d'un plat à gratin. Et puis on finira ce menu par une salade de fruits, parce que vous êtes à... Il y a plein de fruits actuellement, hein. Donc moi dans ma salade de fruits j'ai mis 2 pommes, 250 grammes, alors c'est une grosse salade de fruits, c'est pour des gros gourmands, donc 250 grammes de fraises, 2 pêches, 2 nectarines et 250 grammes de cerises. Pour le sirop on aura besoin de 20 morceaux de sucre roux, un bâton de cannelle ou de la badiane, de la fleur de badiane. C'est l'un ou l'autre, on ne mélange pas les deux, c'est pas terrible au niveau du goût. Moi, je l'ai fait avec de la cannelle, une gousse d'ail, une gousse de vanille, décidément, je n'y arrive pas.
Tu recommences.
La gousse d'ail avec la salade de fruits, ça ne va pas le faire. Donc, c'est la gousse de vanille et puis 10 centilitres d'eau, un demi-jus de citron vert. Et puis, pour les ustensiles, bah, vous aurez besoin d'un couteau, d'un saladier, d'une casserole, d'un chinois, vous allez comprendre pourquoi après, et puis d'une cuillère en bois et d'un zesteur. Voilà, et bien on va commencer déjà par la salade de fruits, parce que il faut le temps un petit peu que tous les fruits macèrent et que le sirop refroidisse. Donc pour ça, vous allez prendre une casserole et vous allez mettre les 20 morceaux de sucre roux dans votre casserole et rajouter les 10 centilitres d'eau. Alors je vous rappelle que 10 centilitres d'eau, ça fait 100 millilitres d'eau. Je le dis parce que je vais faire un clin d'œil à quelqu'un qui a voulu faire du pain et il a mis en route la machine. Et puis, en fin de compte, sur la recette, il pensait que c'était marqué 200 décilitres. 2 décilitres, et lui, il a mis 2 décilitres. Voilà.
D'accord.
Alors que c'était 2 millilitres, puisque pour faire du pain, ça on le verra une autre fois, mais pour faire du pain, il faut savoir que si vous faites 500 grammes, c'est 30% d'eau qu'il faut mettre. Voilà, et il n'avait pas pensé à ça, c'était la première fois. Donc son pain était poudreux, on va dire. Voilà, c'est un clin d'œil, s'il m'écoute, il va se reconnaître et il va être mort de rire, je pense. Je tairai son nom par contre. Voilà, donc je reviens à mon sirop. Donc c'est 10 centilitres d'eau, le bâton de cannelle, vous le mettez dedans, la gousse de vanille, on la fend en deux, dans le sens de la longueur, et on va mettre un zeste de citron vert et le demi-jus de citron vert. Donc ça dépend de la grosseur de votre citron vert. Il faut juste que ça soit parfumé de citron vert et en aucun cas que le citron vert ressorte de votre recette. Donc c'est pour ça que je mets un demi. Et puis on va porter tout ça à ébullition pendant 2 minutes. Et puis quand au bout de 2 minutes ça porte, ça bulle, hein, ça boue, et ben hors du feu, vous allez laisser refroidir et laisser tout infuser tranquillement. Et pendant ce temps, ben, on va laver, égoutter et couper les fruits. Alors on les coupe, tous les fruits, vous les coupez en petits morceaux. Moi j'aime bien avoir des petits morceaux, style des petits dés, hein, parce que ça passe tout seul après en fin de repas. Voilà, le temps que vous fassiez tout ça, je pense que Théo va nous mettre une page de publicité et une pause musicale. À tout de suite.
20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, nous revoici. Après, c'était Angèle que tu nous as mis.
Oui.
Oh, tiens, la culture musicale, ça arrive de temps en temps. Bien. Alors, bonsoir à ceux qui nous rejoignent. Donc, on est en train de faire notre sirop. Je pense que là, pendant la pause musicale. Il a eu le temps de bouillir, donc de ce fait-là, on va le laisser infuser et surtout refroidir, parce qu'on ne met pas du sirop sur des fruits frais. Donc pour poursuivre, on va faire le cake. Pour cela, on va préchauffer notre four à 180 degrés. Donc je vous rappelle, le thermostat c'est 6, et dans un saladier avec le batteur électrique, donc vous mettez bien le batteur au fond de votre saladier, hein. S'il est un peu plus haut votre saladier, c'est encore mieux, parce que sinon il y a des éclaboussures. Vous allez mélanger, alors vous mettez les œufs, donc 2 œufs entiers, vous mettez les 50 g de farine, 50 g de maïzena, le sachet de levure, les 2 cuillères à soupe de fromage blanc, une cuillère à soupe d'huile d'olive, vous mettez une cuillère à café de moutarde et vous battez avec votre batteur électrique jusqu'à temps que votre préparation soit bien homogène, donc sans grumeaux, sans choses comme ça. Donc une fois que vous avez fait ça, ça va relativement vite, vous allez rajouter le sel, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc je vous rappelle, hein, le principe c'est 2 pincées de sel pour une pincée de poivre, et puis vous allez rajouter les herbes de Provence. Alors les herbes de Provence, vous mettez par exemple une grosse cuillère à soupe, par exemple. Mais vous pouvez mettre un petit peu plus, ça dépend de votre goût. Et puis quand vous avez mélangé tout ça, vous allez rajouter, donc là on y va petit à petit, hein, parce que vous allez rajouter, alors plus au batteur par contre, mais vous allez prendre une cuillère en bois. Qu'est-ce qu'on vous pouvez prendre?
Une marise? Cuillère
en... ouais, une marise, oui, exact, une marise. Moi, j'aime bien travailler à la cuillère en bois parce que, comme ça, mais la marise, c'est pas mal. Donc, vous allez préparer vos tomates séchées. Donc, on va les détailler en lamelles. Et puis des cubes de feta, donc vos 10 cubes de feta, et puis donc coupés en deux, hein, les cubes de feta, comme on veut des mini cakes, on va pas faire des gros morceaux, donc le mieux c'est de recouper les dés en deux. Et puis la courgette, on va la couper en dés et on va délicatement mélanger tous ces ingrédients. Donc là, je pense que vous avez fini de battre normalement. Donc vous rajoutez vos tomates séchées, donc en lamelles, je le répète. Et les cubes de feta, donc coupés en deux, la courgette coupée donc en petits dés, et on mélange délicatement. Et dès que vous avez fini tout ça, eh bien, on va les mettre dans les 6 à 8 petites cassolettes rectangles. Et vous allez les mettre aux 3 quarts. Ça, c'est important parce que je vous rappelle que ça gonfle. Donc, faut faire attention. Et puis, aux 2 tiers. Je me suis trompée. Donc, aux 2 tiers. Et puis, par-dessus, vous allez déposer les rondelles de tranches des rondelles de chèvre frais ou pas frais, hein, c'est comme vous voulez, comme vous le sentez. Vous pouvez les prendre cendrées par exemple, enfin, ça donnera un petit goût, un petit peu de fumée. Voilà, l'important c'est qu'elle soit par-dessus votre appareil et que elle soit fine. Vous pouvez mettre, alors si c'est des grosses rondelles comme des grosses bûches et que votre cassolette est un peu moins large, dans ces cas-là vous les coupez en deux et puis vous les mettez après sur une plaque. Le mieux c'est de les mettre avant de les remplir et puis vous allez les enfourner pendant 25 minutes. Donc là, Nathalie, tu es notre maître du temps comme tous les soirs, tous les mardis soirs. Et c'est parti pour 25 minutes. Voilà. Pour poursuivre, nous, on va poursuivre par la purée de pommes de terre. Alors la purée de pommes de terre, vous allez, si ce n'est pas déjà fait, vous allez les éplucher, les couper et les laver, parce que on fait pas le contraire, on lave pas les pommes de terre, on épluche et on coupe, on épluche, on coupe et on les lave après. Voilà, c'est important parce que s'il y a un petit peu de terre et que vous les épluchez, bon, il risque d'en rester. Voilà, et vous allez donc dans une casserole avec un grand volume d'eau et d'eau salée, donc vous mettez du gros sel, hein, vous mettez une grosse pincée de gros sel dans votre eau et puis vous allez faire cuire vos pommes de terre pendant 15 minutes. Voilà, il faut que la pointe de votre couteau rentre facilement dans la chair. Voilà pour le départ de la salade de fruits et de la purée. Je pense que Théo, c'est l'heure. Eh bien, je te laisse alors.
Vous cherchez une idée de sortie originale en famille ? Parc Babyland à Miland, 34 attractions. La grande roue, le voltigeur, la montée fantastique, le slalom, la bûche dansante, le pteranodon, la coccinelle géante, la rivière canadienne. Petits et grands pourront faire le plein de sensations au Parc Babyland à Miland, à 30 km au sud de Paris, ouvert tous les jours dans l'Essonne, au cœur de la forêt de Rougeau.
Parcbabyland.fr.
Le royaume des enfants et de la famille.
Infini Radio, c'est ta web radio de proximité. Connecte-toi sur www.infiniradio.fr.
Comme les ennuis se répètent, on parle toujours en peut-être. Demain sera jour de fête, si tu essaies, oui tu le sais. Ça s'embrouille dans nos têtes, on se plaît que ça s'arrête. Le bonheur se jette, c'est tu l'as compris, c'est tu l'as appris. L'horloge tourne un peu trop vite, le monde tourne un peu trop vite que dans tes rêves. Oh. C'est le rythme accélère encore, si c'est assombrir le décor que ça t'achève. Oh. Faisons comme si l'on était toujours en état, l'orage ne peut rien changer. C'est tout pas. Rappelle-toi le printemps, rappelle-toi le moment, un instant, les jeux d'enfants et les centaines de joies sans peine. Comme si l'on était toujours en état, l'orage ne peut rien changer. C'est tout part en fumée, qu'il en soit ainsi. Oh. C'est tout part en fumée, danse et me crie. Regarde comme il est tard, ne laissons rien au hasard. Regarde comme il est tard, il est tard. C'est tout part en fumée.
jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Bien, nous revoici donc. Donc, on a préparé, pour ceux qui nous rejoignent, on a préparé le sirop et nos pommes de terre sont en train de chauffer. Nathalie, je pense que tu avais mis les 15 minutes oui. avant la musique.
Oui, donc, oui.
Et nos cakes sont au four.
Exactement.
Voilà.
Donc, pour 25 minutes.
Donc pour 25 minutes. Donc on récupérera les pommes de terre tout à l'heure, une fois que les 15 minutes seront passées. Et entre-temps, on fera le sirop, on verra. Voilà. Par contre, peut-être que Nathalie, tu as l'origine, l'histoire du cake à nous raconter ce soir.
Oui. Alors, un cake, qu'on appelle principalement comme ça en Europe, ou gâteau aux fruits au Québec et au Nouveau-Brunswick, qui est une campagne, enfin je ne sais plus comment on dit, une province, pardon, voilà, du Québec. C'est un gâteau en feu de forme ronde ou rectangulaire, contenant des raisins secs et des fruits confits qu'on sert en tranches. Le mot cake s'est étendu à un gâteau salé de même forme, fait avec des légumes, des olives, du jambon et plein d'autres choses. On parle alors de cake salé. Et selon le trésor de la langue française, un cake, qui est un mot attesté en 1795, c'est pas d'hier, c'est un gâteau à base de farine, d'œufs, de beurre et de sucre et contenant des raisins de Corinthe et des fruits confits. Le mot emprunté à l'anglais, lui aussi issu de l'ancien norvégien caca, alors K-A-K-A, hein, raccourci de fruit cake ou de plum cake, qui est un gâteau au raisin, est considéré comme un anglicisme dans une partie de la francophonie, notamment au Québec. Cake peut se traduire en anglais par le terme fruit cake. En Égypte antique, les pâtisseries ressemblant à des cakes sont déposées dans les tombes des défunts. Pardon. Les Grecs, eux, confectionnent des cheesecakes à base de lait de chèvre, tandis que les Romains enrichissent parfois leurs pâtes panifiées à base de farine d'orge et du beurre, des œufs, des raisins et du miel. C'est une pâtisserie ressemblant au cake et qui se retrouve sur les tables d'anniversaire ou dans les cantines des légionnaires. Le cake moderne est probablement inspiré des pâtisseries rapportées par les croisés de la Terre Sainte. Les Anglais en font une spécialité des fêtes de Pâques et Noël et le servent pour les mariages.
Merci. Donc, t'as vu, on voyage là,
oui.
Entre l'Égypte, les Romains, la Grèce. La cuisine française n'est pas que française.
Oui. Hein,
elle a été cherchée à droite et à gauche. Bien, on va continuer par notre gazpacho. Donc, pour ça, on a besoin de 8 tomates que l'on va couper. Donc, bien évidemment, on les aura lavées et égouttées. Donc, 8 tomates qu'on va couper. Ensuite, on coupera le poivron vert et le poivron rouge. Le concombre, bien évidemment. On coupera aussi, donc grossièrement, hein, c'est pas la peine puisqu'on va mixer tout ça. Donc, on va donc couper l'oignon après l'avoir épluché. L'ail, bien évidemment, on le coupe aussi et on l'épluche avant. Et puis, on va garder quelques petits morceaux de concombre et de poivron pour la déco. Ça sera juste pour mettre par-dessus les verrines que l'on va préparer. Et puis, donc, vous allez tout passer au mixeur. Donc si vous avez un blender, c'est encore mieux. Si vous avez un petit mixeur, il faudra le faire en plusieurs fois et puis le mettre dans un saladier. Donc une fois que vous avez bien mixé l'ensemble, vous allez ajouter dans cette préparation, donc ça va relativement vite, ça c'est encore une recette qui est rapide mais qui va tout de suite au frais. C'est pour ça qu'on le prépare en avance, hein, de façon à ce que ça soit un peu frais quand on va passer à table. On ajoute à cette mixture, on y ajoute une tranche de pain de mie. Voilà, et on mixe de nouveau. On va assaisonner évidemment avec du sel, du poivre. Vous allez y rajouter 4 cuillères à soupe d'huile d'olive. Et là vient les 2 cuillères à soupe de vinaigre de xérès. Et selon votre goût, vous y rajoutez une petite pointe de piment. Alors vous pouvez prendre le piment oiseau, vous pouvez prendre le piment entier qui est plutôt en boule. Le piment oiseau, c'est plutôt un petit peu, il fait comme un bec d'oiseau. C'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on l'appelle comme ça. Je ne sais pas, il faudra que je revoie mon histoire là-dessus. Ou alors, tout simplement, si vous avez du piment en poudre, mais vous y allez parcimonie, hein, vraiment, c'est vraiment délicat. Il faut vraiment le faire gentiment, le piment, parce que tout le monde n'aime pas. Et puis, vous remixez le tout. Et une fois que c'est bien mixé, donc pas de petits grains, rien du tout, vraiment à forte vitesse, hein. Plus c'est fort mixé, meilleur sera. Et puis vous allez le verser dans vos 4 à 6 verrines, tout dépend. Et puis vous détaillez en petits dés le reste de poivron que vous avez mis de côté, le reste de concombre qui vous reste, vous le détaillez en petits dés aussi, et ainsi que les oignons, les 4 oignons nouveaux qu'on avait mis de côté, eh bien on va les détailler aussi. Et puis donc en fine lamelle, vous allez écraser les 2 œufs durs. Donc je vous rappelle pas comment on fait les œufs durs, hein, parce que ça c'est oui, relativement facile. Donc les 2 œufs durs, vous les écrasez à la fourchette et puis vous parsemez. Donc ça va faire plein de couleurs, puisque le gazpacho c'est à base de tomates, donc vous allez avoir une couleur jaune, rouge par la tomate. Si vous avez du poivron jaune, parce que vous avez trouvé du poivron jaune, vous le mettez avec, ça va être super sympa comme couleur. Donc vous imaginez le camaïeu de couleurs que ça va faire dans votre assiette, dans votre verrine. Et puis vous parsemez donc votre soupe de tous ces petits dés de poivron, de concombre, d'oignon et puis d'œufs durs écrasés. Voilà, et vous, la dernière touche finale, vous ciselez une feuille de basilic et vous la déposez dessus et vous laissez refroidir.
J'ai une petite question.
Dis-moi.
Est-ce que on retire la peau des tomates et des poivrons ?
Pas du tout.
D'accord, parce que
moi je mets tout dedans.
Il n'y a pas de petits morceaux qui restent.
Non, quand c'est mixé vraiment, alors il faut avoir un super bon mixeur, ouais. Et c'est pour ça que je vous dis que plus la vitesse sera importante et meilleur ce sera. Et n'hésitez pas, c'est pas 30 secondes de mixage hein, qu'on fait, hein, c'est une minute.
D'accord.
Plus ça va être comme un velouté de soupe. En général vous mixez, 30 secondes. Non. Non, non, enfin, si vous voulez faire un bon velouté et un bon gazpacho, c'est une minute. Et si vous voyez qu'il y a encore des petits grains, vous refaites.
Oui, il faut que ce soit agréable.
Mais en aucun cas, j'enlève la peau. Ça, c'est... Je ne suis pas partisane d'enlever tout ça. Enfin, bon.
Bah non, parce que je crois qu'il y a beaucoup de
Et voilà. Donc, on enlève les bienfaits des fruits et des légumes quand on enlève les peaux. Ça, c'est comme le concombre, hein. Vous laissez la peau hein, dessus. Hein.
Moi, je laisse une lamelle sur deux, en fait.
Mais c'est mixé. Donc, à la limite, tu t'en moques. Sauf pour la déco. Pour la déco, tu peux faire, effectivement, enlève une épluchure sur deux. Et puis, les épluchures, vous les mettez en espèce de... Comme une anse de panière au-dessus de ton... Au-dessus. Et dans ces cas-là, on prend un zester. Enfin, moi, j'appelle ça un zester. C'est une espèce de cuillère plate où il y a un creux à l'intérieur et un crochet. Et ça, on coupe les citrons comme ça, on coupe les concombres. Et puis, justement, comme c'est un petit peu épais, pour faire une petite panière, tu le plantes dans ta verrine d'un côté et tu replantes l'extrémité dans l'autre côté. Ouais. Ça fait une petite déco supplémentaire. Voilà. Mais surtout, important, c'est bien mettre au frais tout ça, parce que ça se mange vraiment très, très froid. Hein, donc, c'est important. Nat, on a le temps...
Que j'explique d'où vient le gazpacho.
Oui, le gazpacho, d'où vient. Oui, on a le temps.
Alors,
vas-y, explique-nous d'où vient le gazpacho, justement.
Alors, le gazpacho, c'est un potage à base de légumes crus, mixés, mais servis froids, qui est très répandu dans le sud de l'Espagne, donc l'Andalousie, puisque là, on parle de gazpacho andalou. Et le sud du Portugal aussi, plus exactement à... Alors, je ne parle pas à portugais, pardon pour les Portugais qui nous écoutent, à l'Antero, je pense, et en Algarve, le gazpacho à l'Antero. Voilà. Les origines de ce plat populaire remontent au Moyen-Âge, période pendant laquelle le sud de l'Espagne faisait encore partie du monde islamique. Le gazpacho était préparé à base de tomates, concombres, poivrons mélangés avec de l'huile, de l'ail et l'ingrédient principal, le pain rassis. Le paysan pauvre d'Andalousie récupérait le pain de la veille pour en faire une soupe consistante. La mie de pain était alors mélangée avec des fruits secs, de l'ail ainsi que du vinaigre. La tomate ne fut incorporée à la recette du gazpacho qu'à partir du XVIIIe siècle. Et la préparation du gazpacho peut varier selon la région. Dans certaines régions, on y ajoute des ingrédients comme l'amande, l'anchois ou encore l'olive.
Tout à fait, c'est ça. C'est ça. Là, c'est vraiment l'andalouse. Hein. Et puis, c'est des fruits de saison. Hein,
oui.
Encore une fois, fruits et légumes, parce que je vous rappelle que la tomate est un fruit.
Oui.
Voilà. Hein, donc c'est pour ça que je dis fruits et légumes. Bien, bah écoute, merci Nathalie, parce que c'est un point important. En parlant de points justement, où en sommes-nous au niveau de nos cuissons différentes ?
Alors, les pommes de terre, ça devrait être bon, parce qu'on est quasiment aux 15 minutes.
Voilà, donc,
et donc il reste encore 10 minutes pour les cakes.
Alors les pommes de terre, ben, ça tombe bien, on va les, elles sont cuites. Donc vous, pour savoir si elles sont bien cuites, ben, vous mettez une pointe de couteau. Si ça s'enfonce parfaitement bien, ben, c'est qu'elles sont vraiment cuites. Le mieux, je sais que maintenant, enfin, bon, moi perso, je prends que la même, toujours la même pomme de terre. Voilà, je ne me soucie pas, mais il paraît qu'il y a des pommes de terre spéciales.
Spéciales purées, oui, oui.
Spéciales purées, spéciales ceci, spéciales cela.
Oui, spéciales donc, frites, spéciales, voilà. Ouais.
Donc moi, je prends toujours la même pomme de terre, comme ça je sais...
C'est laquelle ? Dis-nous,
mais c'est l'ancienne, c'est la pomme de terre.
Elle n'a pas de nom ?
Elle n'a pas de nom.
C'est pas la Charlotte ?
Ah non, non. La Charlotte, elle est un peu...
Un peu rose.
Un peu rouge.
Oui,
c'est la peau, elle est
moi,
rouge.
Moi, j'aime bien celle-là.
Alors, moi, de temps en temps, je la prends, mais pour peut-être pour plus des salades. Tu
oui,
vois
exact.
Parce qu'elle va être parfumée. Non, moi, je prends chez mon fournisseur, je prends mon sac de patates de 100 kilos. Et puis, je ne me soucie pas du nom. Je n'ai jamais fait gaffe. Voilà. C'est pas... Ça. Et puis, alors, moi, les noms des pommes de terre, ça, c'est comme les vaches. Les noms des vaches, je ne les retenais pas. Voilà, c'est comme ça. C'est comme ça. Voilà, donc... les pommes de terre, elles sont, on va les égoutter et puis on va les mettre dans un saladier. Vous allez prendre un presse purée et dans ce saladier, vous allez rajouter les 20 centilitres de lait pour délayer un petit peu. Et dedans, vous aurez, vous mettrez de la crème fraîche. Donc on met une cuillère à soupe de crème fraîche, ça c'est pour l'onctuosité. Et puis vous pouvez rajouter de la noix de muscade râpée. Ça donne un goût un petit peu boisé à votre purée. Donc là, le lait est important. Alors, il peut être chaud ou froid, c'est comme on veut. Le lait, c'est tout doucement. Ça dépend de la pomme de terre que vous avez utilisée. Et il y a des pommes de terre qui seront plus secs que d'autres. Et dans ces cas-là, il faudra rajouter un peu plus de lait. Voilà. Donc, et on ne rajoutera pas de beurre dans cette purée pour la simple raison, c'est qu'on a mis de la crème fraîche. Donc, on a une belle purée. Alors, s'il reste des morceaux, c'est encore mieux. Ça a fait un petit écrasé de pommes de terre. Ça peut être aussi bien, puisque on va préparer notre hachis. Vous rectifiez bien l'assaisonnement. Donc, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Donc, deux pincées de sel, une pincée de poivre. Et vous allez réserver. Donc, bon, elle va refroidir tout doucement, mais on ne veut pas que ça refroidisse fort. Donc, ça ne sert à rien de la mettre au frigo. Pendant ce temps-là, on va préparer nos petits légumes. Donc, je vous rappelle qu'on avait mis des carottes et du céleri, donc coupés en dés, et on va les faire revenir un petit peu dorés. Donc, si vous les avez coupés en dés, ben, c'est encore mieux, parce que plus ça sera finement, ça va se rajouter à notre cuisson, à notre hachis plutôt. Et les petits légumes, ben, on va les dorer, mais juste avec une petite pointe d'huile d'olive. Et puis, une fois que c'est doré, hein, pas grillé, mais doré, on arrête le feu et puis on va les mettre de côté. Voilà. Donc ça, on met de côté, c'est pour le hachis. On va revenir un petit peu à notre sirop qui doit être maintenant un petit peu froid si vous l'avez mis au frigo. Alors moi, là il est infusé. Je le passe au chinois pour deux raisons. Parce que vous pouvez avoir des petits résidus de saleté de sucre. Vous pouvez avoir déjà la vanille, vous allez pouvoir la récupérer. Et puis on récupérera aussi le bâton de cannelle. La vanille, on la récupère. Comme elle est fendue en deux, il reste toujours des petites graines, hein, parce que ça part pas forcément à l'ébullition. Donc on va gratter pour récupérer les petites graines et on va les remettre dans notre sirop. Voilà, donc ça, le sirop, il est fait. Et puis, on va l'arroser. Donc, on arrosera de ce sirop, on arrosera tous nos fruits. Hein. Alors, évidemment, les fruits, vous allez les couper, tous les couper en petits morceaux. C'est ce que je pense qu'on a fait dès le départ.
Oui.
Donc bien mélanger. Alors on les mélange délicatement, surtout quand vous avez de la fraise. Alors moi perso, j'ai pas mis de banane parce que la banane, elle a du mal à vieillir, elle noircit. Même si on met du citron, ouais, elle noircit. Donc je mets pas de banane pour cette raison-là. Et la deuxième raison, c'est que le lendemain, moi si en reste, je la mange au petit déjeuner. Voilà. Et ça, je trouve que c'est délicieux. Si vous en reste encore, bon, ça c'est si, mais si vous avez des gourmands, ça m'étonnerait, vous pouvez faire une compotée. Dans ces cas-là, vous égouttez les fruits de leur sirop, vous les mettez à réchauffer dans une casserole, et puis à peu près 5 à 10 minutes, parce qu'ils sont déjà un peu cuits dans le sirop. Cuit, c'est une façon de parler, hein. C'est parce qu'ils ont macéré, on va dire. Et dans ces cas-là, vous faites cuire ça pendant 10 minutes dans une casserole. Vous mixez le tout et vous mettez ça dans des petits bols au frigo et ça vous fait une compote de fruits mixte. Voilà, tout simplement. Si vous voulez le rajouter, si vous voulez faire plutôt un jus de fruits, dans ces cas-là, vous laissez le jus. Le sirop, vous mixez tout et ça vous fait un jus de fruits, quoi. Enfin, il faut pas jeter le reste de salade de fruits si vous en avez. Voilà, donc on a passé, on a passé notre sirop au chinois, on a gratté notre vanille pour récupérer les petits grains qu'on a rajoutés au sirop et on va arroser donc de notre salade de fruits, de tout ce sirop et on va mélanger délicatement. Et après, une fois que vous avez fait ça, eh bien, vous mettez ça au frais. Donc comme le gazpacho, ça se mange frais, hein, c'est meilleur. Et puis au moment de servir, ce que vous allez faire, c'est que si vous avez de la menthe dans le jardin ou que vous en avez peut-être dans le congélateur ou tout simplement de la menthe fraîche que vous avez dans votre frigo, eh bien vous allez la ciseler et les juste parsemer pour la déco. Voilà, juste pour un petit peu de peps dans la salade de fruits, ça va remonter un petit peu. Et puis ça va surtout servir de déco. D'ailleurs, Nathalie, en parlant de salade de fruits jolie jolie, mis à part la chanson de Bourvil.
Tu veux pas qu'on fasse une petite pause musicale avant?
Ah bah écoute.
Le temps que les personnes finissent leur salade de fruits, je pense.
Oui, tu as raison. Ça sera plus tranquille et plus cool. Moi j'étais lancée sur ma.
Je vous expliquerai tout après.
Voilà, merci beaucoup. À tout de suite.
Baby, see you through the lights, and I won't let you fall. wanna feel me, feel me, baby, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. She just wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man. She just wanna feel me, feel me, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. She just wanna party, party with me. But I want more than that. Think I'm losing it, just waiting, baby. See you through the lights and I won't let you fall. All the way around, I know you let me go. Even if it's right for you, don't leave me alone, baby. I get the feeling you're not involved. She just wanna feel me, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. Wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man. She just wanna feel me, baby. She just feels like ice cubes on some whiskey. She just wanna party, party with me. But I want more than that, I wanna be her man.
Jusqu'à 20h30, cuisiner en direct avec Anne dans l'émission Food Anne.
Eh bien, on était en train de verser, d'avoir coupé nos fruits qui sont déjà coupés depuis le début de l'émission.
Ouais,
je
crois qu'on a fini la salade de fruits.
On a fini la salade de fruits.
Je pense que les cakes sont cuits.
Alors, on sort les cakes du four et puis on va les laisser refroidir tranquille. Hein, voilà, parce que si on veut les mettre dans un plat pour les couper, c'est mieux de les couper quand ils sont froids.
Oui. Hein,
on ne les coupe pas à la sortie du four. Donc, notre salade de fruits, elle est faite. Notre gazpacho est au frais. Nos mini cakes sont sortis du four. Alors, je vous rappelle la cuisson, hein, tout dépend du four que vous avez, mais je vous rappelle la cuisson. On plante un couteau sec à l'intérieur d'un cake. Et si jamais il ressort et il a encore un petit peu de pâte, on le remet 2-3 minutes. Hein, je vous rappelle que c'est des mini-cakes, donc c'est 15 minutes, normalement, ça devrait être bon. Et si par contre ils sont secs, c'est que ça veut dire qu'ils sont cuits. Voilà. Mais avant de continuer sur notre hachis, Nathalie, est-ce que tu as quelque chose à nous dire au niveau de la salade de fruits jolie, jolie?
Oui, alors la salade de fruits, comme tout le monde le sait, c'est un dessert qui est composé d'un mélange de fruits. Comme on vient de le voir, la salade de fruits peut se déguster en toute saison. Effectivement, il y a les fruits d'été, les fruits d'automne, les fruits d'hiver. Donc la salade de fruits, ça se mange quand on en a envie, en fait. Donc il en existe différentes recettes en fonction des saisons ou des pays. Dans certains pays, la salade de fruits, elle est pimentée. Comme le kujak de la cuisine indonésienne, la salade de fruits, tire son nom probablement de celui de la région des Balkans, qui est caractérisé par la coexistence de différents peuples, les Grecs, les Bulgares, les Macédoniens, les Albanais, les Serbes et les Turcs. Une autre explication remonte à un événement qui aura lieu à l'époque de l'empereur Justinien. Antonina, femme du brave général Belisario, elle avait un amant, cette dame qui se souciait beaucoup, un serviteur du général du nom de Macédoine. Sous promesse solennelle et les serments qu'elle ne descendrait pas plus mal, voilà, Belisario a révélé à l'affaire. Oh là là, c'est pas très... voilà. Antonina a également nié les preuves et finalement son mari, convaincu de l'innocence de sa femme, la Macédoine, a abandonné à son sort. C'est pas très français tout ça, mais bon. Antonina, donc fait sa coupe langue, ouais.
Oui, ça.
Ah, ça coupe langue. Je ne sais pas ce que c'est, ça coupe langue. Puis réduit donc de nombreux petits morceaux recueillis dans un sac ont été jetés dans la mer. Ah oui, c'est ça, c'est coupé la langue en petits morceaux, elle l'a coupé dans la mer. De là pourrait naître l'adage « faire une salade ».
Voilà, c'est ça.
Ah oui, d'accord, ok.
C'est une histoire comme une autre, hein. c'est une légende.
C'est oui, c'est une légende, parce que j'imagine...
Elle avait quand même coquiné avec un macédonien, d'où le terme de macédoine.
Oui.
Macédoine de légumes ou macédoine de fruits.
Oui, qui est...
Voilà, ouais. Donc c'est une légende encore une fois. Hein. Donc, c'est surprenant cette histoire, mais je trouvais qu'elle était surprenante. Voilà. Moi, j'aime bien ce genre de choses-là. Bon, ce qu'il faut retenir quand même, c'est que elle vient de différents pays, serbes, turcs, albanais. Enfin, c'est voilà, tout le monde fait de la salade de fruits. Après, la salade de fruits, ce qui est bien, c'est qu'on peut faire n'importe quel sirop avec. Il faut faire attention à pas mélanger trop d'épices mais comme tout à l'heure au début de l'émission. À la place de la cannelle, vous mettez une fleur de banyane, ceux qui aiment bien le goût de l'anis. La fleur de banyane, c'est la fleur d'anis, hein. Donc c'est une étoile. Et moi, j'aime beaucoup faire avec la fleur d'anis et je rajoute toujours un petit peu de menthe. Et la menthe, ça peut être la menthe qu'on prend pour le thé, par exemple, mais ça peut être aussi une menthe poivrée.
Oui.
Donc, et ça va donner du peps à la salade de fruits. Voilà, donc ça peut faire des desserts variés. C'est génial, la salade de fruits. Donc mangez-en, en plus c'est plein de vitamines. Bien, on va reprendre donc après cette histoire étonnante, on va reprendre notre hachis. Pour cela, on va prendre nos cuisses de canard confit et puis on va les effilocher. Donc je vous rappelle qu'on enlève la graisse et toute la peau, hein. Donc ça, on va pas utiliser ni la graisse ni la peau. Une fois qu'on a bien... Alors si vous avez trop de graisse dessus, vous pouvez l'essuyer avec
un essuie-tout.
Et puis on va l'effilocher et on va le mettre dans le fond du plat à gratin. Donc, tout simplement, effilocher grossièrement, hein, ça ne sert à rien de couper des petits morceaux. Les cuisses, elles sont déjà... Et comme c'est du confit et que c'est déjà pré-cuit, ben, vous allez voir, ça va... Alors, si c'est un petit peu rose, ben, c'est tant mieux parce que de toute manière, ça finira de cuire.
Tu effiloches avec une fourchette ?
Non, moi, avec les mains. Moi, j'aime bien travailler avec les mains.
Mm-mm.
Voilà, j'effiloche. Alors, on dit effilocher parce que vous allez voir, ça, la cuisse de canard, ça fait des fils. Donc, voilà. Alors, c'est grossièrement, hein, c'est pas la peine de. Bon, c'est pas non plus, on va pas mettre la cuisse entière, mais vous l'effilochez en petits filaments. Et puis, on va le rajouter donc, au fond du plat à gratin. Donc, celui qui va au four, hein, bien évidemment. Ensuite, on va recouvrir nos petits légumes qui étaient coupés en dés, donc en petits morceaux et qu'on avait fait dorer. On rajoute un petit peu de sel et de poivre, mais on rajoute par-dessus l'effilochage de confit de canard. Et puis, on va étaler la purée de notre kilo de pommes de terre qu'on a épluché tout à l'heure. Et bien, on va les cuit et mis en purée, et on va la mettre par-dessus. Voilà, c'est tout simple.
C'est très simple à faire.
C'est un hachis parmentier, il n'y a rien de plus simple. L'important, c'est que les petits légumes, si vous les avez cuits dans de l'huile d'olive, il reste du jus, vous les mettez dedans. Parce que tant soit peu, le confit de canard peut être un peu sec. Donc vous mettez un petit peu de jus dedans, c'est, ça va être sympa, ça va être bon avec ce jus de carotte et puis ce petit goût de céleri derrière. Et vous, une fois que vous avez mis la purée par-dessus, vous, alors moi j'aime bien faire des dessins avec la fourchette, le dos de la fourchette, comme ça, ça dort une tranche sur deux, voilà.
J'ai une petite question.
Oui.
Si on n'aime pas le céleri, qu'est-ce qu'on peut mettre pour remplacer?
Tu peux mettre une julienne de poireaux, ça peut être sympa. D'accord. Aussi. Ça peut être sympa, une julienne de poireaux, ou tu peux mettre de la courgette, on est en plein dans la courgette.
Ça rend de l'eau la courgette.
Ben, ça sera justement, ça sera bien, parce que la courgette, ben, le céleri aussi rend de l'eau. Hein.
Ah d'accord.
Donc, mais pas autant que la courgette, je te l'accorde. Ouais. Mais vous faites une petite julienne de légumes, hein, carottes, courgettes ou ce qu'on a dit tout à l'heure, ou que carottes, hein, ça c'est comme vous voulez. Mais faut que ça soit un petit peu relevé, donc aux poireaux aussi. Mais julienne, quand je dis julienne, c'est vraiment haché fin.
Oui, c'est ça. Hein, c'est
donc
très,
c'est
très fin.
C'est fin et surtout doré. Ça sert à rien que ça soit super cuit puisqu'on va, ça va réchauffer. Et puis les légumes croquants, ça fera en bouche quelque chose un petit peu croquant, un petit peu filandreux et un petit peu avec la pomme de terre pas tout à fait la purée pas tout à fait écrasée, lisse. Voilà, ça fait un écrasé de purée. C'est super bon.
Ah, c'est meilleur que la purée en flocon.
Oui, ça c'est. C'est tout à fait vrai. Là, je bon après c'est comme vous voulez si vous n'avez pas le choix.
Oui, mais quand vous n'avez pas le temps et que vous avez.
Mais
envie,
si vous réfléchissez bien, le temps de faire chauffer le lait pour faire la purée mousseline, pour ne pas la nommer, vous avez fait vos pommes de terre. Sauf que effectivement, ça met plus de temps pour l'épluchage, mais c'est tellement meilleur. Quoi.
Ouais.
C'est tellement meilleur. Avant de mettre au four, on mettra quelques petites noisettes de beurre dessus, de façon que ça dore un peu plus. Et puis, ben, vous savez, notre four qu'on a avec, on a sorti notre cake. Surtout, vous ne l'avez pas éteint. Et ben, on va le mettre notre hachis de canard dedans. Voilà. Donc thermostat 6, 180 degrés, et vous allez le faire dorer 15 minutes. Voilà. Le temps juste de passer à table,
de manger
le gazpacho avec les cakes, etc., etc. Donc ça laisse. Alors au bout de 15 minutes, vous l'éteindrez. Hein, c'est toujours pareil, puisque je vous rappelle que la purée est déjà chaude, donc on demande qu'au canard de réchauffer. Voilà, donc ça, encore une fois, ça dépend de votre four. Encore une fois, c'est pour vérifier la température, si c'est chaud à l'intérieur, vous plongez un couteau dedans, froid, et vous le portez aux lèvres. Alors doucement, hein, mais vous le portez aux lèvres et vous voyez la température, ou vous le mettez sur votre main et vous voyez la température comme ça. Voilà, on ne plante pas son doigt pour savoir si c'est chaud à l'intérieur ou pas. Voilà. Bien, Nathalie, peut-être une histoire sur le confit de canard et le hachis parmentier.
Alors, le hachis parmentier que tout le monde connaît, c'est un plat à base donc de purée de pommes de terre et de viande hachée. Ce gratin doit son nom à l'apothicaire Antoine Parmentier, qui, convaincu que le tubercule, parce que la pomme de terre est un tubercule, pourrait combattre efficacement la disette. Alors, je ne sais pas ce qu'est la disette, ça devait être une maladie.
Ou alors c'est parce que les gens disaient beaucoup de choses.
Ou non, peut-être.
C'est la disette.
En tout cas, il l'a fait goûter à Louis XVI. Le mot plus général hachis désigne un plat dans lequel les ingrédients sont hachés, émincés ou broyés. Ce mets est apparu au début du XXe siècle. Il a été nommé en l'honneur d'Antoine Augustin Parmentier. On va donner ses dates, 1737-1813, qui popularisa la pomme de terre en France, permettant à son pays de sortir du cycle famine-disette. Ah bah c'est ça, disette, c'était la famine en fait, voilà c'est ça. Frédéric Ziegermann, journaliste spécialisé, explique « Le hachis parmentier serait né à Paris ». Il retrouve ses lettres de noblesse dans de nombreuses brasseries de la capitale qui reproduisent à l'ancienne ce plat à base de purée de pommes de terre et de viande de bœuf hachée. Certains chefs innovent avec de nouveaux légumes et aromates. Et selon ce même Frédéric Ziegermann, dans la version traditionnelle du hachis parmentier, les pommes de terre cuites à l'eau, et réduites en purée avec l'eau de cuisson, sont salées et poivrées. Le reste du pot-au-feu ou n'importe quel autre morceau de viande ou poisson cuit est haché, passé au four avec de l'oignon, du persil et un œuf.
Voilà, donc avec le poisson, on peut appeler ça une brandade.
Une brandade, c'est ça.
Tout à fait. Il me semble bien qu'on avait, on a déjà fait ça.
Oui.
Hein, il me semble bien.
Il me semble aussi.
Donc, à vérifier.
Ouais.
Mais si ce n'est pas fait, on va le faire parce que ça, c'est quelque
c'est
chose.
Très bon.
Si on l'avait fait avec du lieu ou du cabillaud de
c'est
mémoire.
Ça. Voilà. Et si vous n'aimez pas le poisson, bah vous allez aimer le poisson parce que ça passe tout seul.
Exactement.
Ouais,
et comme on mixe tout, et ben les arêtes, il n'y en a pas
ouais.
dedans. Donc, c'est quand même vachement sympa. Bon, ben écoute, merci pour cette grande culture de ce soir, Nathalie.
On apprend encore plein de choses.
Hein. Ouais. Ben écoutez, nous sommes à la fin de l'émission.
Et oui.
Voilà, déjà, une heure s'est vite passée quand on est en votre compagnie. Notre gazpacho, il est toujours au frais. Le cake, il refroidit tranquillement, donc il n'y a pas besoin de le mettre au frais. Notre parmentier de confit de canard est au four. Notre salade de fruits, jolie, est au frais aussi. Et puis, il est temps de mettre une jolie table, de déguster, pour déguster en famille ou entre amis, les mets que vous avez préparés aujourd'hui. Voilà, il me reste à vous souhaiter un très bon appétit, une excellente soirée. Je vous retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Prenez soin de vous et puis on vous embrasse.
Bonsoir.